Mais avant cela, on commence avec le festival de la culture Rome Camoro qui s'achève ce samedi à Prague. Comme chaque année, de nombreux groupes de musique tzigane traditionnelle ou plus contemporaine y ont participé, et parmi eux, Ours Carpats, un groupe venu de France qui s'est produit jeudi à Prague et doit se produire ce samedi soir une seconde fois. À l'origine d'Ours Carpats, l'histoire extraordinaire de Dimitri Gadjo de Bretagne qui s'est très tôt pris d'affection pour ces gens qu'on dit du voyage. Une histoire qu'il a racontée en détail à Anna Kubishta.
Culture sans frontières.
Dimitri, comment est-ce que, pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas votre musique, comment est-ce que vous caractériseriez Ours Carpats et la musique que vous jouez? Est-ce que c'est un orchestre? Parce que vous êtes assez nombreux quand même.
Alors, Ours Carpats, c'est un peu un groupe particulier dans la mesure où c'est un groupe qui a vu le jour il y a 20 ans bientôt.
Vous fêtez d'ailleurs les 20 ans l'an prochain.
Voilà, nous avons fêté les 20 ans l'an prochain, notamment avec trois concerts exceptionnels à Paris, au théâtre à l'Européen. C'est un groupe qui, dans une première partie, était simplement formé de quelques musiciens pour accompagner un spectacle d'ours que je présentais alors. C'était il y a 20 ans. Petit à petit, ce groupe musicalement s'est constitué. 2-3 personnes au départ, puis 4, puis 5 et jusqu'à 9. Et en 1998, j'ai pris l'option de professionnaliser le groupe en tant que groupe musical, et qui est avant tout un groupe lié au chant tzigane, au chant ethnique, sur lequel on a fait un gros travail pour éviter qu'il disparaisse, donc qu'on a remis au... Certains au goût du jour, certains réenrichis sur le plan texte parce qu'il ne restait que quelques fragments.
Parce que c'était que de la culture orale, donc du coup ça pouvait se perdre en fait, c'est ça?
Tout à fait, oui, du fait que c'était de la culture orale, les choses se perdaient petit à petit, évidemment, avec les changements de génération. Et parallèlement, les musiciens qui travaillaient avec moi étant d'excellents musiciens, ça permettait aussi en même temps d'avoir un répertoire musical très, très étoffé, très riche.
D'où viennent tous ces musiciens?
Au début, il y en a qui étaient issus un petit peu d'origine tzigane, grecque, d'origine yougoslave, et puis petit à petit ça s'est resserré, et pour des raisons pratiques, tous vivent à quelques centaines de kilomètres à la ronde en Roumanie.
Comment vous faites pour vous rencontrer? Vous vivez là-bas aussi, ou alors vous vivez en France?
Depuis 20 ans, ce sont des gens qui ont leur titre de séjour pour vivre en France, donc qui sont au même titre que les Français sur les législations du travail. Et personnellement, j'ai toujours fait l'effort aussi que pour ne pas qu'ils soient un petit peu déracinés de chez eux et déracinés en France, j'ai toujours fait l'effort à ce qu'ils retournent le plus souvent possible chez eux.
Alors justement, est-ce que vous pourriez un peu détailler ce répertoire? Et est-ce que vous avez également des compositions personnelles?
Alors donc, le répertoire est issu de choses traditionnelles, soit de chants justement qui étaient plus en voie de disparition, voire d'extinction, qu'on a réenrichi et remis à notre façon, très proche de la façon traditionnelle au goût du jour. Et on a aussi quelques compositions, notamment à travers des textes qu'on a écrits et qu'on a mis en musique aussi, tout en gardant cet esprit traditionnel tzigane.
Quels sont justement les thèmes qu'abordent ces chansons?
Alors les chants traditionnels sont, chez les Roms, sont souvent liés à la manière dont se déroule leur vie, c'est-à-dire la famille, le déplacement et aussi souvent l'affrontement avec les non-tziganes.
Et justement, dans vos compositions, est-ce que vous reprenez ce type de thème ou finalement vous en trouvez des nouveaux, justement plus, j'allais dire, presque d'actualité?
Voilà, disons, on les reprend plus ou moins, plutôt moins d'ailleurs. Et puis bon, les textes évidemment sont moins traditionnels, beaucoup plus poétiques, beaucoup plus riches aussi quand c'est possible en vocabulaire, parce que la langue tzigane est quand même une langue très 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 pauvre. Bon, il y a des sujets précis, ça peut être des thèmes religieux, des thèmes aussi par rapport à la contexte social des Roms dans les sociétés occidentales. Enfin, bon, mais c'est beaucoup plus personnel, beaucoup plus et poétique aussi, quoi.
Qui vient voir vos concerts? Est-ce que c'est des Roms et des non-Roms?
Alors, sont, on va dire, à 98% des non-Roms. Alors, dans ce cas-là, évidemment, on donne explication de ce qu'on chante. Et, et, parfois, bon, il y a des Roms aussi, mais enfin très très, très peu, sauf dans les cas de pèlerinage ou des choses comme ça, comme au Sainte-Marie-de-la-Mer, quoi.
Est-ce que vous-même, puisque vous n'êtes pas Rome, hein, vous êtes originaire de Bretagne, comment est-ce que vous-même êtes arrivé à aimer et à vouloir vivre dans cette culture Rome?
J'ai eu une vie un petit peu spéciale dès le départ, dès tout petit. Donc, d'une part, les Roms, enfin bon, ceux qu'on appelait les Romano, il y a quelques années, venaient stationner tout près de là où j'habitais. Des tout petits, ben, je m'enfuyais déjà pour aller les rejoindre, aller chez eux, aller passer une soirée. Enfin, je m'échappais de chez moi pour aller m'accoler à eux. Évidemment, je me faisais récupérer et j'avais le droit à une raclée hein, au retour. Comme je disais, je voulais partir avec eux pour faire ça que je voulais. Et puis ensuite, bon, ben, j'ai eu une jeunesse pas forcément très heureuse et qui a fait que tout. Ce sont des gens que j'ai beaucoup fréquentés tout le temps de ma jeunesse et tout le temps de mon adolescence. Et puis, comme
et
ça.
Vous avez appris la langue aussi?
Bon, à l'époque, pas spécialement, parce que bon, les gens, quand on est enfant, on ne cherche pas spécialement à apprendre la langue des autres. Mais si on connaissait tous les mots, aussi toutes les insultes et toutes ces choses, évidemment, toutes les choses un peu vulgaires, on s'en rend très vite. Et puis, bon, de fil en aiguille, aimant beaucoup aussi le chant. J'ai un petit peu perduré avec mon contact avec eux durant des décennies et notamment aussi à l'époque où tous ces pays d'Europe centrale étaient sous le joug soviétique. Bon, je me suis rendu très souvent sous couvert de visas touristiques dans ces pays.
Comment justement était l'atmosphère à l'époque et comment vivaient justement ces populations? Je pense que ça devait un peu changer selon les pays.
Alors ça changeait un petit peu suivant les pays évidemment. Il y a des pays où c'était vraiment très très dur pour eux, d'autres ça l'était un peu moins. Des pays comme la Roumanie ou l'ex-Yougoslavie, voire la Russie, comme n'est pas dangereux politiquement, donc on leur a laissé le droit de se déplacer, de nomadiser. D'autres pays, évidemment, on les a beaucoup plus muselés. Un jour, on a cassé tous leurs chevaux, cassé toutes leurs roulottes et on les a implantés de force là où ils se trouvaient, quoi. Et voire même, certains pays les ont même beaucoup stérilisés à cette époque-là.
Bah, c'est le cas de la République tchèque. Hein.
Tout à fait. Et c'est vrai que j'ai assisté, à l'époque, j'avais assisté en Slovaquie à des choses assez dramatiques à ce niveau-là, quoi.
Alors vous avez sillonné, ce que vous dites, hein, vous avez sillonné l'Europe à cette époque-là, et puis alors il y a un tournant à un moment donné, c'est en Bosnie, et c'est un peu de là qu'est né après Urs Karpatz d'une certaine manière, plus tard. Est-ce que vous pourriez raconter ce qui s'est passé?
Dans les années 83, 84, je me suis trouvé très, très lié avec des Roms de Serbie. Avec mon ami, on est parti. Beaucoup de fois, on les a retrouvés sur leur route. On savait quelle route, généralement quel circuit ils faisaient entre mars et octobre. Et ces gens-là vont parcourir les routes avec des ours. Et donc, on s'est beaucoup lié d'amitié avec eux. Et on les a retrouvés plusieurs fois. Et puis, bon, un jour, il s'est trouvé qu'au bord d'un lac, il y avait un enfant du chef de la tribu qui était en mes yeux. Donc, mes yeux ont vu une tête couler, remonter. Donc il y a un enfant qui était en train de se noyer, je faisais sans poser de questions, chercher le plus rapidement possible. Et puis c'est là qu'on m'a offert un ourson à l'époque. Donc il a fallu gérer le cadeau empoisonné.
Et comment vous l'avez géré alors?
Je l'ai géré, comme j'ai pas pu le refuser. Je l'ai géré pendant des années et des années, jusqu'à. J'ai renoué en France à travers les fêtes médiévales, notamment la tradition des montreurs d'ours. C'est de là que j'ai commencé par introduire un musicien, deux musiciens, trois musiciens, un tzigane, puisque la tradition, avant d'être ariégeoise ou française, était tzigane.
Donc voilà, c'est les tziganes qui ont introduit justement cette tradition autrefois,
en
alors.
En France, oui, en France, ce sont ce qu'on appelait les boyaches, qui étaient les montreurs d'animaux, et donc certains avaient des ours. Donc qui ont parcouru la France au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, avec des ours notamment. Et effectivement, lorsqu'ils sont passés dans les régions des Pyrénées, notamment en Ariège, comme les Ariégeois étaient très très pauvres et qu'il y avait des ours dans les montagnes, ça leur a donné l'idée de devenir aussi montreurs d'ours.
Et vous avez toujours des ours aujourd'hui?
Et oui, j'ai toujours mes trois plus vieux ours que j'ai gardés, qui vivent paisiblement leur retraite en Bretagne. Là, ils ont 27 et 28 ans.
Ça vit longtemps, un ours.
Ça vit moins longtemps que ça, normalement. Ça vit entre 20 et 25 ans, mais en captivité, s'ils ont un bon équilibre, ils peuvent vivre, voire peut-être 40 ans. Quoi.
Que vous apporte cette vie pleine de musique, de tournées, de création ?
Ouais, ce que ça m'apporte, plein d'emmerdes. De plus en plus, puisque, en fin de compte, le temps qui est imparti à la musique et à faire ce qu'on aime est de plus en plus réduit, dans la mesure où il y a de plus en plus d'obligations, et que ce soit sur le plan administratif, sur le plan de la gestion du groupe, sur le plan de la recherche de travail, enfin, par les temps qui courent, la culture, on sait qu'elle est quand même mise à mal, surtout tout ce qui est culture populaire. Mais bon, heureusement, comme je dis, personnellement, la liberté, c'est le droit de se contraindre soi-même.
Est-ce que vous ressentez, comment est-ce que vous ressentez s'il y a justement un regain de racisme anti-Rome en Europe ? Est-ce que vous pensez que c'est finalement dans la lignée d'une tradition de rejet ou qu'il y a un regain ?
C'est-à-dire les choses vont et viennent. Et je pense que petit à petit, les choses vont plutôt à l'inverse du racisme. Et de temps en temps, il y a des relents, il y a des relances, il y a des modes, on va dire. Et puis, c'est tellement facile aussi de s'attaquer à des gens qui sont faibles, qui n'ont pas de lobby pour se défendre.